Boulevard 101, l'émission On en jase, ton émission d'actualité du midi. On vient de faire un bloc plus politique que provincial avec Antonine Iacarini. Là, on va se lancer dans un bloc local. Politique municipale, travaux du tramway, dérangement pour les commerçants, les citoyens. C'est exactement ce que l'on va faire à l'émission On en jase. À la météo, c'est moins 2 degrés présentement. Ce sera 2 degrés. Le maximum aujourd'hui, alternance soleil et nuages. Demain, moins 3, alternance de soleil et nuages aussi. Retour de la neige jeudi avec un maximum établi à moins 1 degré. Pascal, veux-tu me dire une affaire, là?
Dis-moi.
Puis là, on essaye de le rejoindre. Qu'est-ce que Stéphane Lachance faisait à sa côté de Maïté Blanchette-Vézina et Éric Duhaime? Il retourne-tu candidat pour les conservateurs?
J'avais l'air d'un enfant de 3 ans avec vous autres dans la pause. J'ai comme, les gars, écoutez-moi.
Mais
les
non,
gars,
mais
j'ai quelque chose à dire.
Qu'est-ce qui se passe là?
Je sais pas, mais...
On va-tu parler de notre chef d'opposition?
T'sais, automatiquement, moi, je fais ma revue de presse. Puis dans ma revue de presse, il y avait cette annonce où Maïté Blanchette-Vézina se joint officiellement au Parti conservateur pour les prochaines élections. Le flirt politique a résumé en une alliance entre Éric Duhaime et elle. Elle est actuellement indépendante. Elle va se présenter dans la Pelleterie, le comté de son ex-collègue Éric Kerr. Écoute, je regarde ça, puis je regarde les photos qui ont été prises. Il y a une photo claire. Puis moi, je me dis, probablement que le photographe du Soleil a fait exprès. Parce qu'en
ben
13
oui.
ans de carrière, si t'as pas juste pris Maïté Blanchette-Vézina et Éric Duhaime dans ta photo,
ben
tu voulais que je vois c'est qui était à gauche.
C'est clair
puis la personne qui est à gauche, c'est Stéphane Lachance, qui est à l'opposition ici à la Ville de Québec. Donc, il y a lui, il y a Maïté Blanchette-Vézina dans le centre et il y a Éric Duhaime. Peut-être qu'on fabule, mais ça reste que c'est une photo protocolaire officielle dans une annonce protocolaire et officielle qui allait être couverte par tous les médias, assurément.
Ben oui.
Si on voulait pas la présence de quelqu'un dans lequel on allait avoir quelques discussions en onde ou dans les médias, pourquoi il était là?
Exactement. Stéphane Lachance, qui avait été justement candidat pour le Parti conservateur, là, je suis en train de chercher dans quelle circonscription en 2022, je m'en rappelle plus par cœur. Mais bref, ça laisse place à beaucoup d'interprétations.
Puis tu sais,
que Stéphane
qu'il
Lachance
était
va terminer son mandat comme chef d'opposition. À respect citoyen.
Assurément, il était déçu. Je peux pas croire que lors du dernier scrutin municipal, il était très, très heureux de ça. Malgré tout, il faisait une job auprès de Bruno Marchand depuis le tout premier conseil municipal.
Ben oui.
Mathias est à nos côtés, va être capable de renchérir là-dessus. Mais il était pas dans un... Il était pas en mode pitbull là, depuis le début. Là. Peut-être parce qu'il se dit « Ah, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. »
Mais il faut que je précise, par contre, je dis le comté dans lequel Stéphane Lachance s'était présenté lors des dernières élections pour le Parti conservateur. C'est la Pelleterie.
Ah, fait que peut-être
justement.
Qu'il était là en
ouais.
tant qu'ancien candidat.
Ça se pourrait.
Ouais. Ça, c'est une meilleure hypothèse.
Mais
une
c'est
chance
pas,
que t'es là pour nous.
C'est pas étrange, malgré le fait qu'on se soit présenté, que maintenant on est à l'opposition officielle au municipal, d'avoir ces liens très proche là au point où on se présente dans une annonce.
Mais tu as raison.
Ça,
parce
c'est
que
juste une analyse comme ça, brouillon.
Normalement,
là, mais...
on devrait se garder...
Une petite gêne.
Ouais, exactement. Tu sais, rencontrer les gens de tous les partis politiques, mais pas nécessairement aller à un rassemblement
ouais, parce
politique
parce qu'il n'avait pas été élu. Donc, c'est pas une passation de candidature.
Ouais, t'sais. En effet. C'est si pas ça... une passation du pouvoir, ouais. là, comme dans les faits. Non, c'est vrai. Tu as raison. C'est un bon point que tu amènes.
Regarde, on pose la question à M. Lachance.
Non, mais c'est particulier, ça, je suis d'accord, mais... Au moins, là, j'ai envie de dire qu'il y a un
ouais.
petit lien à faire. Là. Avant, c'était juste vraiment bizarre, puis c'était comme crime, il va-tu se présenter?
C'est ça.
Là, oui, c'est bizarre parce qu'il est à l'opposition de la Ville de Québec, puis il n'y a pas nécessairement à prendre parti pour un parti politique provincial.
Yes.
Mais au moins, on peut faire le lien que c'était l'ancien candidat du parti dans la Pelleterie.
Sinon, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité, Pascal?
Oui, c'est sûrement été Blanchette-Vézina. Vole le show avec son alliance avec les conservateurs pour les prochaines élections. Mais un autre dossier très chaud ici à Québec, c'est le tramway. Chantier du tramway, ben, le bilan est positif, mais on dit qu'il y a un chaos inévitable. Et le chaos semble un peu moins contrôlé que ce qui en a l'air, ou du moins de ce qui en est discuté par le maire de Québec, Bruno Marchand. On dresse un bilan positif du début du méga chantier du tramway. Vous savez, dès la fin de semaine dernière, on a commencé à revoir les parcours d'autobus. On a fait des sens uniques avec certaines rues. Il y a des constructions qui ont commencé. On dirait que c'était une transition vers les vraiment très gros travaux. Mais c'est particulier. Il y a du mécontentement. Il y a des gens qui n'ont pas trop compris. Il y a de la confusion. Par contre, pour l'administration Marchand, tout se passe bien. Même s'il y aura des journées de chaos pendant les travaux, c'est comme si c'était prévu, puis c'est comme ça, puis on a un bon départ. On va en parler avec Mathias Turcotte dans quelques instants. Gilles Laulier, ancien maire de Lévis, a été approché dans les dernières semaines par le nouveau chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard. C'est ce qui a pris le soleil. Il confirme avoir rencontré M. Laulier il y a 2 ou 3 semaines, mais par contre, il dit que ce n'est pas une rencontre informelle précise et on n'a donné aucune offre en vue des prochaines élections à M. Laulier. Le Parti québécois a forcé l'abandon d'un projet pilote pour faciliter le vote des itinérants. C'est ce qui a pris le soleil. Donc, on peut lire que le projet pilote d'Élections Québec visait à installer des bureaux scrutins directement dans les organismes communautaires. Et ça, c'était pour augmenter la participation électorale des personnes itinérantes. Dans la proposition, on dit même que si elles ont droit au vote, elles n'ont pas nécessairement les ressources pour se rendre jusqu'au bureau des directeurs de scrutin. Alors, la DG du PQ mentionne que le projet déposé par le DGEQ posait des risques pour l'intégrité du processus électoral. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, va un peu dans la même veine que Bernard Drainville, qui est candidat à la chefferie du parti de la CAQ, parce qu'on veut s'attaquer à la construction. Une offensive qui va mener à un gouvernement du Parti québécois à diminuer les coûts de construction au Québec. Ils sont en avance dans les sondages. Peut-être que ce sera quelque chose de fort gros et un point chaud des prochaines élections provinciales, mais le Parti québécois dénonce les coûts de construction. Ils disent que c'est anormalement élevé au Québec. On pointe un manque de concurrence, un manque de constance, de fiabilité, et on dit que le gouvernement, comme donneur d'ouvrage, se doit de voir le fardeau réglementaire qui est trop lourd en ce moment. Le gouvernement du Québec doit déposer aussi un projet de loi qui vise à moderniser la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Et c'est Radio-Canada qui est arrivé avec cette nouvelle-là un peu plus tôt. Les ministres de la Santé Sonia Bélanger et de la Justice Simon-Jolin Barrette tiennent une conférence de presse conjointe là, cet après-midi à ce sujet-là. Des sources de Radio-Canada indiquent que la volonté du gouvernement, c'est de permettre aux autorités comme les policiers d'intervenir en prévention avant que les drames se produisent.
Merci beaucoup, Pascal. Maïté Blanchette-Vézina sera en studio avec nous demain à midi, justement, pour parler du fait qu'elle est maintenant rendue au Parti conservateur du Québec et qu'elle se présentera dans l'appelleterie. Mais en attendant, le gros dossier du jour, c'est les travaux qui entourent le tramway. On a le collègue Mathias Turcotte avec nous. Mathias, conférence de presse ce matin, pratiquement interminable. C'est-tu signe qu'on communique pas si bien que ça du côté de la Ville de Québec?
Je pense pas. Je pense que c'est signe que les journalistes font leur travail. Ouais, Par contre, c'est toujours ça. Là. Honnêtement, les conférences de presse au municipal à Québec sont beaucoup plus longues que n'importe quelle autre conférence.
Je salue le travail de tous les journalistes sur le beat de la politique municipale, que ce soit Thème Moala, Stéphanie Marton, Journal de Québec, Émilie Pelletier du côté du Soleil, et également là, nos collègues de Radio-Canada et TVA. Là, tout le monde fait un travail exceptionnel.
Puis pour vrai, moi, je vois ça d'un œil positif. C'est très rare des élus, que ce soit municipaux, provinciaux ou fédéraux, qui vont donner 1 heure et demie de leur temps dans la journée à répondre aux questions.
En effet.
Vraiment toutes les questions, là.
Tu as entièrement raison.
Donc, justement, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est des mises à jour sur des chantiers à venir qu'on avait déjà annoncés et de nouveaux chantiers qui vont arriver au cours des prochains mois. Donc, on sait, il y a de cela un mois, on avait un mois pile, on avait eu un point de presse sur des chantiers à venir à l'ouest. Cette fois-ci, on a parlé un peu plus des chantiers à l'est sans nécessairement parler du gros morceau qui est tous des travaux sur René Lévesque.
Est-ce que Stéphane Lachance était au point de presse?
Non, ben Stéphane Lachance...
Ah, il est occupé avec Maïté Blanchette-Vézina.
Puis Éric Duhaime.
Ouais, c'est ça.
Stéphane Lachance n'assiste pas au point de presse habituellement, mais non, on n'a pas eu de réaction d'opposition à la suite du point de presse.
Mettons que c'est un ballon échappé de Stéphane Lachance.
Donc, pour ce qui est nouveau, justement, on a annoncé qu'un lien temporaire dans le secteur qui va relier Gérard, Morisset et De Vimy dans le secteur de Hauteville... un lien entre les deux autoroutiers, dans le fond, va être construit. Ça s'en vient début juin, normalement, ce qui est attendu pour le début des travaux. Aussi, double sens de la rue Dorchester, des travaux qui devraient débuter début juin également, avec la démolition de la passerelle Pouliot, justement, pour ces travaux-là. Ce qu'on dit du côté de la Ville de Québec, c'est qu'on a créé un passage piéton sécurisé déjà.
Parfait.
En prévision de la démolition de cette passerelle-là, puis que la rue Dorchester va devoir devenir à double sens avant le début des travaux sur la rue de la Couronne pour faciliter les transitions.
Le RTC fait beaucoup jaser en fin de semaine. Des autobus articulés qui avaient de la misère à circuler dans le coin du Grand Théâtre. Un chul qui était pas bien desservi selon les usagers. Est-ce qu'on a parlé de ceci?
Oui, bien sûr. Là, c'est le début des premiers changements sur tout ce qui est réseau routier à Québec qu'on a vu. On a eu aussi un problème de synchronisation des lumières sur Hochelaga. Bon, oui. On a eu des difficultés dans le Grand Théâtre. Pourtant, on nous dit que tout se passe bien jusqu'à maintenant du côté David durant la conférence de presse d'aujourd'hui. La question a été posée au maire. Est-ce qu'il y a un décalage entre ce qu'on présente, ce qu'on voit du côté David puis ce qui est vécu sur le terrain? Voici sa réponse.
Non. On vous a précisé qu'est-ce qui est arrivé sur Hochelaga, sur quoi on travaillait. On vous a précisé ce qui est arrivé dans le secteur du Grand Théâtre, ce sur quoi on a travaillé, ce qu'on a déjà corrigé. On travaille sur 19 kilomètres. On travaille sur 50 parcours d'autobus transformés et qui dépassent bien largement les 19 kilomètres parce qu'on travaille sur des parcours qui prennent des gens d'ailleurs et les amènent vers ces endroits-là qui ont des entraves. Globalement, ce qu'on vous dit, puis on vous présente un portrait authentique, honnête, ça va bien. Est-ce que vous pouvez trouver des endroits où on a des choses à améliorer? Oui, on vous les nomme. On vous les nomme de façon très, très candide, très transparente. On va continuer de les améliorer.
Ça va bien. Je lance un défi au maire. Allez devant le CHUL demain matin puis revenez en onde pour me dire si ça va bien. Faites ça. Ça va bien. Hey, on gère 19 km. Comme si c'était la première ville à gérer 19 km de travaux.
Non,
ça n'a pas de sens.
Effectivement, puis il y a des points faibles. Tu as parlé du CHUL, on va y revenir dans quelques instants. Avant ça, peut-être certains auditeurs même ont reçu des amendes dans le secteur du Grand Théâtre.
180$ d'amende quand on vient de changer la signalisation. C'est un échappé majeur, ça.
Oui, bien, honnêtement, oui. Ce qu'on dit du côté David, c'est tout ce qui a été remis par le service de police. On n'enlève rien de tout ça. Ces amendes-là restent là. Par contre, on a annoncé qu'on révisait certains constats d'infraction pour des parkings qui ont été remis. C'est Marc Desrivières, directeur service de transport et de la mobilité intelligente à Québec, qui a dit que lui, présentement, il y a 9 amendes qui ont été remises pour des parkings qu'il va amener justement à faire une demande au procureur de la cour pour qu'il soit révisé. Puis, il donne l'exemple d'un de ces constats-là, pourquoi il fait cette démarche-là.
Et dans ce cas-là, c'était très, très simple. Le citoyen s'est stationné dans un endroit qui était une zone pour résidents le soir. Le lendemain matin, très tôt, les équipes sont venues remplacer la signalisation pour dire que ça devenait du stationnement interdit. Ah. Monsieur était toujours là.
Ça fait piège.
L'agent est passé quelques heures après. Il a vu le panneau, il a vu monsieur, puis il a dit « je mets un constat ». Et le délai était, à mon avis, inacceptable. Et je suis convaincu, je suis en mesure de convaincre le procureur que c'était effectivement inacceptable.
J'espère qu'il va comprendre.
Oui, bien, c'est ça quand on dit que tout était bien planifié. T'sais, c'est un autre exemple de manque de planification. Puis je veux pas trop frapper sur le clou, là, puis je veux pas être trop critique, mais c'est un bel exemple. Et vois-tu, quand on parle d'Hochelaga, texto qui vient de rentrer, continue nos texto 418-971-1021. Je viens de prendre Hochelaga, la lumière au coin Jean-Dequin, place de la Cité, permet de laisser passer 6 autos maximum. Donc, c'est pas encore réglé.
Non, ça, de ce côté-là, on dit que c'est en train d'être réglé.
Ça va prendre combien de temps?
Puis on a expliqué que l'une des choses sur Hochelaga qui avait créé des problèmes, c'est qu'on a rajouté 7 secondes pour le passage de piétons, étant donné qu'on a plus d'autobus. Que ce 7 secondes-là a tout brisé la synchronisation des lumières qu'on avait déjà faites.
Normalement, tu serais censé être capable de le faire avant d'arriver dans les travaux.
Effectivement, puis pour ce qui est des constats d'infraction, pourquoi on n'a pas averti nos équipes? Hey, cette rue-là,
exactement.
On ne donne pas d'amende aujourd'hui.
Donc, c'est là qu'on voit que la planification n'a pas été réussie du côté de la Ville de Québec, quoi qu'en dise Bruno Marchand.
Secteur du CHUL, on parle de complications, de personnes à mobilité réduite qui vont avoir de la difficulté à se rendre au CHUL s'ils prennent justement le transport en commun. C'est Valérie Drolet, directrice exécutive du développement du réseau, qui a quand même tenu à expliquer ce qui était en place actuellement et ce qui va peut-être être changé.
C'est pourquoi, entre autres, nous avons créé le parcours 12 qui circule à proximité du CHUL via la route de l'église et qui approche notre clientèle environ à 250 mètres. Les parcours 804, 805, en plus d'offrir une correspondance avec le parcours 12, ont également un arrêt à proximité du CHUL sur Hochelaga. On vous disait qu'on est en mode agile, donc on travaille déjà à modifier le parcours 12 pour le rapprocher davantage du CHUL et bonifier sa fréquence dès juin prochain.
C'est une autre problématique de planification. Tu desserres le CHUL. C'est sûr que tu as des personnes à mobilité réduite. C'est sûr que tu as des personnes malades. C'est sûr que tu as des jeunes enfants. C'est sûr que tu as des personnes aînées. Comment ça, tu réalises quand ça commence que c'est trop loin ton arrêt avec le CHUL?
Puis plus loin que ça, c'est un nouveau trajet. Le 12, c'est un parcours qui n'existait pas. Fait que Le parcours 12 existe depuis samedi. On est mardi. On dit 4 jours après,
ouais.
On va le modifier. Pourquoi ça n'a pas été fait avant?
Je vais te donner un exemple. Moi, au RTC, j'ai géré la transformation du parcours 60 au parcours 803. Okay? Le 60 passait devant le centre de service du RTC sur la rue des Rocailles. Le 803 faisait le Bourgneuf full pin parce que c'est un métrobus, il faut que ça aille vite. Mais on a rajouté un parcours 61 parce qu'on n'avait pas le choix de desservir le centre de service du RTC. On a un centre de service pour que les clients aient acheté de la carte opus, les étudiants, ouais. Tout le kit. Bon. On n'a pas droppé le monde à trois coins de rue du centre de service. On les a droppés en avant.
Puis, je comprends toute la difficulté que représentent tes travaux et tout, mais si présentement, ils évaluent des solutions pour le rapprocher, ces solutions-là, excusez-moi, ils auraient dû être évalués avant. Je veux juste terminer en rappelant rapidement les
oui.
travaux. Puis en précisant un autre travaux, mais qui va durer juste une semaine. En gros, boulevard René-Lévesque, juste vous avertir, à hauteur de avenue Cartier, la semaine du 13 avril, le transit va être fermé. Donc René-Lévesque, à cette hauteur-là, ça va être fermé, donc ça va se faire par Grande Allée. Ça va être un méchant beau test pour la circulation à venir, parce que je vous rappelle que Grande Allée, présentement, il y a une voie réservée. Fait qu'on a perdu une voie de circulation sur Grande Allée. Une fois que René-Lévesque va être bouché puis que toutes les voitures vont aller sur Grande Allée, ça va ressembler à quoi, la circulation durant la semaine du 13 avril? Ouais,
très difficile.
J'ai bien hâte de voir. Également, vous rappeler que Boulevard Laurier, c'est 2 voies de chaque bord présentement, là, dans le secteur des travaux. Mm-hmm. C'est depuis 7 semaines. Également, Boulevard des 4 Bourgeois, c'est fin avril que ça devrait commencer entre Pidouze et Duplessis.
Mathias Turcotte, merci infiniment. Tu fais toujours un excellent travail sur le terrain et on se reparle cette semaine avec d'autres conférences de presse auxquelles tu assisteras ou des dossiers, je le rappelle, citoyens en commercial blvd.fm. Le chum Mathias Turcotte va se faire un plaisir de fouiller les dossiers que vous allez lui envoyer.
Bonne journée.
Merci. À Boulevard.